Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Mais surtout ce soir avec notre invitée Cécile Leroux, qui est membre de la Fabrique à idées dans les Hautes-Alpes. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être notre invitée ce soir. Alors, on va d'abord peut-être, avant de parler du sujet qui nous intéresse ce soir, à savoir eh bien finalement ce qui touche l'ensemble des Alpes du Sud actuellement, mais l'intégralité aussi de l'Europe, et donc y compris la France, c'est-à-dire cette migration massive sur l'Occident. On va parler peut-être de la Fabrique à idées d'abord, et son principe de fonctionnement et son objectif.
D'accord. Alors, la Fabrique à idées, en fait, existe depuis 2015, début janvier 2015. L'idée, c'est une idée d'ensemble pour une alternative citoyenne à gauche. L'idée, c'était qu'on arrive à avoir, avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément partie prenante d'ensemble, de pouvoir avoir un langage commun sur un certain nombre de thèmes, d'actualités.
Et de ramener notamment la société civile à la politique, à l'intérêt de la société. Ça a fonctionné, puisque ça va faire 3 ans bientôt.
Oui, alors ça a fonctionné avec des hauts et des bas, avec des sujets plus ou moins attirants et qui ont fait venir beaucoup de monde, d'autres un peu moins. Mais ça continue quand même d'intéresser un certain nombre de personnes. Donc, en fait, l'idée, c'était que ça soit un espace d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on puisse, sur un thème donné, donc, faire venir une personne qui introduit le débat, et ensuite, les gens qui sont là interviennent, posent des questions, donnent leurs idées.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le français n'est plus un animal politique, ne s'intéresse plus à la vie politique?
C'est qu'elle est un peu désespérante, à l'heure actuelle. Donc, je les comprends un peu, notamment au niveau de tout ce qui se passe au niveau des élections depuis quelques années. Bon, c'est tout à fait normal. Je pense qu'ils sont plus peut-être intéressés par des actions sur leur quotidien, plus que sur ce qui se passe au niveau national, international.
Ce soir, Cécile Leroux, c'est une militante qu'on reçoit ou c'est une femme politique engagée?
Alors, je suis les deux.
Oui.
Donc, j'ai été. Je suis toujours ensemble. Donc, je suis engagée dans ce mouvement qui peine un peu, en ce moment, comme tout le monde le voit. Et j'ai été partie prenante des élections locales. Donc, je pense que j'ai essayé d'avoir un engagement politique qui n'a pas abouti beaucoup, puisqu'on n'a jamais été vraiment élu. On a toujours été dans l'opposition. Voilà, et puis je suis une militante, je pense que c'est au niveau de ce qui se passe actuellement sur les migrants, je me sens vraiment militante comme beaucoup d'autres gens qui ne sont pas forcément politiques. Voilà.
Alors si on vous a invité, c'est aussi parce que demain vous donnez rendez-vous au cinéma Le Royal pour un ciné-débat autour du film « Lettres de Marseille » au cher pays de mon enfance. C'est la question de la nationalité française qui est posée au fil de ces portraits de gens nés dans des pays différents mais contraints à l'exil.
Oui, et donc le réalisateur, là, qui est Alain Barlatier, a essayé de lier ça à une question historique, savoir quelle a été la politique de migration, par rapport à la migration de la France en général, et est-ce qu'on peut toujours dire que la France, c'est le pays du droit d'asile, du droit de l'homme? Est-ce qu'on peut toujours le dire? Eh bien non, nous on dit non. Autant qu'avant.
Oui. Pourquoi vous dites non d'ailleurs? Parce que, encore une fois, ça nous rappelle à la question qu'on vous a posée juste avant, de savoir si finalement on recevait ce soir une femme politique ou une citoyenne engagée. D'autres représentants politiques diraient le contraire. Diraient au contraire, la France reste une terre d'asile, reste une terre d'accueil pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous, que ce n'est pas le cas, que ce n'est plus le cas en tout cas?
On le constate dans le département, au niveau de l'accueil des migrants qui arrivent tous les jours. On ne peut pas dire que l'accueil soit à bras ouverts et qu'on bénéficie d'une aide de toutes les structures de l'État, aussi bien de la préfecture que du conseil départemental, que du conseil municipal. Voilà. Donc c'est un des problèmes. Après, c'est vrai que le droit d'asile, il y a eu plus de personnes qui ont eu le droit d'asile cette année, dans les statistiques de 2017. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, dans les personnes qui arrivent, nous avons beaucoup de mineurs, par exemple. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui devrait être pris en charge massivement par l'État, entre autres, puisque ces mineurs sont, doivent être prises en charge. C'est dans la loi européenne.
C'est ce qui est fait. Par exemple, je vais citer les Hautes-Alpes, mais on va citer aussi les Alpes de Haute-Provence. C'est à peu près la même somme, 2 millions d'euros qui ont été avancés, et on dit bien le terme avancé, par les deux départements, pour prendre en charge pendant la période d'évaluation ces mineurs non accompagnés. Alors, l'État va en prendre une partie à sa charge. L'État prend quand même aussi à sa charge les personnes qui sont sur le territoire et qui sont majeures.
Oui, 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 tout à fait.
Alors, il y a quand même bien une prise en charge qui est effectuée.
Oui, il y a une prise en charge, mais qui n'est pas suffisante. C'est ce que nous disons, nous, en tant que militants de l'accueil.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit suffisante?
Eh bien, déjà, par exemple, au niveau de, je parle des mineurs, parce que c'est un sujet que je connais un peu mieux. Et au niveau des mineurs, par exemple, il faudrait plus de lieux d'hébergement. À l'heure actuelle, on a deux lieux d'hébergement sur le département qui sont insuffisants par rapport au nombre de jeunes qui arrivent. Alors, on nous a dit tout l'hiver, ça va s'arrêter. Les jeunes ne vont plus passer la frontière, ils ne vont plus arriver d'Italie, etc. Ils continuent d'arriver. On en a à peu près entre 20 et 30 par semaine qui arrivent.
En effet, au mois de janvier, il y en a eu presque autant qu'au mois d'août l'an dernier.
Donc, c'est ce problème-là, parce qu'une fois, qu'ils sont reconnus comme mineurs et qu'ils sont mis à l'abri, bon, ça nous concerne un peu moins. C'est quand même encore compliqué pour eux, parce que quand ils bénéficient d'une obligation, d'une OPP, ils vont partir dans des départements différents et ils ne sont pas toujours non plus accueillis par les personnes nécessaires pour leur suivi.
Alors, pour rappeler, en tout cas pour les auditeurs, une fois que les mineurs, alors quand les mineurs arrivent et qu'ils annoncent.
Placement provisoire.
Voilà. Une fois qu'ils annoncent qu'ils sont mineurs et qu'ils sont bien isolés, il y a une période d'évaluation où ils sont pris en charge, soit par les Alpes de Provence, soit par les Hautes-Alpes. Une fois qu'on prouve qu'ils sont bien mineurs et qu'ils sont isolés, ils sont ensuite placés par le parquet, soit de Digne-les-Bains, soit de Gap, vers soit les Hautes-Alpes, soit un autre département. Il y a eu le cas notamment des Bouches-du-Rhône qui a renvoyé dans les Hautes-Alpes 61 mineurs qui les ont refusés. Qui peut forcer un département à prendre en charge un mineur placé?
Ça fait partie de l'aide sociale à l'enfance. Ils doivent accueillir tous les mineurs, quelle que soit leur nationalité.
Mais ils ne le font pas.
Ils ne le font pas. Enfin, mais par contre, ils payent. Parce qu'on les attaque. Et il y a des sommes qui sont données par les départements pour se débarrasser de la question. Et que, voilà. Donc,
après, il y a aussi un argument, un contre-argument politique, hein. Et je dis pas que c'est le mien, mais il faut aussi l'entendre. Et j'imagine que vous l'entendez régulièrement. Cécile Leroux, qu'est-ce que vous faites de l'appel d'air que représente l'éventualité d'en donner plus que ce qu'on peut en donner aujourd'hui?
Alors, l'appel d'air est quand même contesté par un certain nombre de spécialistes de la question des migrations. À savoir que les gens qui arrivent en Europe à l'heure actuelle, dans l'Union européenne, c'est une toute petite proportion par rapport à l'ensemble de la population de l'Union européenne. Donc, si c'était réparti à peu près équitablement entre les différents pays, si l'Union européenne était arrivée à ce que chacun puisse prendre en charge un petit peu de ce nombre de gens qui arrivent, de migrants qui arrivent, eh bien, on arriverait très bien à les accueillir. Ce n'est pas une invasion. C'est pas tout le monde, tous les spécialistes de la migration disent qu'il y a eu bien pire d'autrefois, quand il y a eu les boat people, quand il y a eu plusieurs événements politiques qui ont fait que les gens se sont déplacés. Et en plus, beaucoup d'entre eux, par rapport à la France, par exemple, beaucoup d'entre eux ne veulent pas aller en France. Ils veulent aller en Angleterre ou en Allemagne. Donc, en France, c'est encore pire, parce qu'on s'était engagé à en prendre un certain nombre. On n'a pas du tout atteint ce chiffre-là. Donc, on peut très bien les accueillir. On est un pays riche, voilà.
Ce qui est étonnant, et vous m'arrêtez d'ailleurs si... vous avez la sensation que je m'égare dans mes propos, mais d'un côté comme de l'autre, on constate une certaine instrumentalisation dans ce qui constitue l'accueil des migrants. Comment on peut parler de ce sujet sans justement tomber dans une caricature qui s'oppose d'un côté comme de l'autre? Parce que la vraie difficulté aujourd'hui, on constate nous en tant que médias, c'est que dès qu'on aborde ce sujet, il y a une véritable crispation qui s'exerce et qui fait qu'il est difficile d'avoir un débat qui soit serein. J'entends certains déjà ce soir nous écouter, nous dire, voilà, ils donnent la parole à une militante qui est plutôt de gauche et qui, de toute façon, dans son positionnement politique, n'aura que d'autres positionnements possibles qu'un accueil et cette générosité qui, finalement, va dans le bon sens, mais qui ne correspond peut-être pas à une réalité que peut offrir le territoire.
Alors, je pense qu'on fait des propositions aussi, à partir de, pas seulement nous, qui avons un engagement, bon, un engagement comme un autre, je veux dire. Mais les personnes qui accueillent les migrants, ils ont des idées d'amélioration de ce qui se passe en France et des idées qui coûteraient beaucoup moins cher que de renvoyer les gens dans leur pays,
que vous avez des exemples de construire concrets. Des mieux. Est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple, de ces possibilités, de ces idées qui permettent une alternative viable?
Alors, on dit par exemple, ça concerne plutôt les demandeurs d'asile et les personnes adultes. On dit par exemple qu'il serait bien qu'ils puissent, pendant la période où ils sont en demande d'asile ou en demande d'accueil, qu'ils puissent travailler. Parce que moins ils travaillent et plus ils se dégradent au niveau de leurs conditions psychologiques, etc. Et s'ils travaillaient, ben, ils pourraient apporter leur force de travail. Ils sont jeunes, hein, la plupart du temps. Et ensuite, pouvoir se réinsérer plus vite une fois qu'ils auraient leur papier. Ça, c'est une proposition par rapport au travail. Après, il y a des propositions d'accueil digne, ce qui est la moindre des choses pour les demandeurs d'asile. Alors, le France Terre d'Asile fait très bien son travail et en général, ils sont accueillis quand même dans des conditions correctes. Ce sont ceux qui n'ont plus de recours qui nous inquiètent plus et par rapport auxquels il faudrait faire quelque chose. Mais autrement, je ne pense pas que ce que vous disiez, qu'on était un peu bloqué et qu'on n'acceptait pas le dialogue, je ne pense pas, on essaye.
C'est l'instrumentalisation, moi, qui me questionne, d'un côté comme
pas.
De l'autre.
Oui, oui. Ouais. On n'en veut pas du tout instrumentaliser les migrants. Simplement, à force de les accueillir, on est quand même malheureux de voir la façon dont ça se passe et on se dit qu'on pourrait être plus accueillant. Et que je pense qu'il y a des personnes ici, dans le département, en France, qui, si elles étaient au courant de leur situation et de ce qui se passe, peut-être pourraient apporter quelque chose. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des bénévoles qui arrivent tous les jours pour aider. Donc, on pense que c'est simplement un œil nouveau par rapport à ces personnes qui arrivent, en se disant, ben, pour les mineurs, ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être nos petits-enfants. Enfin, ils ont 14-15 ans, quoi.
Et pourtant, quand les médias essaient justement d'informer sur la véritable situation, là aussi, nous-mêmes, nous, médias, on est face à un mur. Certaines personnes ne veulent pas en entendre parler. Là aussi, il y a un échec. Oui, on ne peut rien y faire.
On est très ennuyés et on a le même mur, certaines
et
fois,
que vous. Et qui porte la responsabilité de ce mur qui s'est mis en place?
Je ne sais pas, je pense que c'est une situation qui est quand même est nouvelle. Après, il y a d'autres responsabilités hein, quand même. Je veux dire, ces jeunes-là, ils arrivent de pays, soit qu'ils sont en guerre, soit qu'ils sont en difficulté économique. On ne va pas tout se mettre sur le dos de la France, de l'Europe, etc. Effectivement, je pense qu'il faut réfléchir aussi à des solutions dans leur pays pour qu'ils puissent y retourner.
Alors, voilà. ça va nous amener à des questions, justement, qui vont dans ce sens, Cécile Leroux. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause. Je rappelle que vous êtes membre de la Fabrique AID dans les Hautes-Alpes. À tout de suite sur Alpe 1.
Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec notre invité ce soir, Cécile Leroux, qui est membre de la Fabrique AID dans les Hautes-Alpes. Cyrielle, on parle de migration et d'accueil des migrants et principalement ce soir des mineurs non accompagnés.
Oui, puisqu'on le rappelle, demain à 20h30 au cinéma Le Royal, rue Pasteur à Gap, la Fabrique AID donne rendez-vous pour un film et débat, un film Lettres de Marseille au cher pays de mon enfance réalisé par Alain Barlatier. Cécile Leroux, juste avant la pause, vous parliez des propositions qui auraient pu être faites, notamment de permettre à ces demandeurs d'asile de pouvoir travailler. Et c'est vrai, on le précise, tant qu'il y a demande d'asile, tant qu'il y a instruction, ces personnes ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas accéder au monde du travail. Je prends un argument qui vous sera certainement opposé, c'est de dire, mais déjà, il y a du chômage en France.
Les endroits où ces personnes pourraient travailler, les secteurs professionnels où ces personnes pourraient travailler, sont en général désertés par les chômeurs français.
Alors, autre argument aujourd'hui qui est avancé par l'État, c'est cette fameuse loi immigration qui est en cours de discussion et qui propose de réduire les délais d'instruction de la demande d'asile. Alors, ça avait été une promesse de campagne dans chaque camp d'ailleurs, que l'OFPRA, l'Office français des apatrides et des demandeurs d'asile, eh bien, puisse réduire ces délais d'instruction. C'est une nouvelle fois avancé dans cette loi immigration. Vous y croyez ou à chaque fois on...
Non, ça, les délais diminuent.
Les délais diminuent.
Ah oui, les délais diminuent.
Donc, ils peuvent accéder plus rapidement au marché du travail.
Oui. Mais il y en a quand même que 40% qui sont pris. Et les 60%, je ne sais pas où ils vont.
Donc, il y a un accompagnement qui manque encore
Je pense, par rapport à ça.
On aimerait, avec Cyrielle, avoir votre regard sur cette immigration également, avec la part qui est portée sur ce qui semble, pour certains en tout cas, inévitable, c'est-à-dire l'exode des populations face à un changement climatique. Est-ce que là, selon vous, on a tendance à laisser de côté un petit peu ce débat? Et ce qui risque d'arriver face à cet exode climatique?
Oui, c'est vrai qu'on le laisse de côté, mais quand on voit déjà, quand l'exode économique arrive, comment il est traité, c'est encore plus compliqué d'imaginer l'exode climatique. Nous, on le dit tout le temps, hein, on a fait une petite plaquette là, l'année dernière sur l'accueil des migrants, où on a repris tout ce que les gens disent et qui sont des choses fausses, en fait. Et donc, je pense qu'il faut revenir sur toute cette analyse qui est faite, parce que finalement, les pays en guerre, il y en a très peu, il n'y en a que 4. Donc, pour que les gens aient le droit d'asile, par exemple, il faut qu'ils arrivent de ces 4 pays en guerre. Tous les autres, c'est des migrants, entre guillemets, économiques ou familiaux, ou étudiants. Bon, après, il y a toutes les catégories de migration habituelles, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent faire des études, ceux qui viennent rejoindre leur famille. Ceux-là, ils sont traités normalement.
Est-ce que ça veut dire que l'Occident, les pays occidentaux, dans leur globalité, sont quelque part comptables également de l'avenir de ces pays ? Quel que soit le dérèglement qu'ils subissent, qu'il soit économique, qu'il soit lié à la guerre ou qu'il soit lié à un dérèglement climatique.
C'est sûr qu'on est responsable, hein, quand on va exploiter des ressources qui leur appartiennent de façon éhontée dans certains pays d'Afrique, c'est sûr qu'on est responsable. Pas que nous. Hein.
Oui, c'est pour ça que je parlais pas de la France, mais des pays occidentaux en règle générale.
Après, ils ont aussi des responsabilités, eux, mais je pense que nous, quand même, dans notre façon d'exploiter la planète, on est un peu responsable de... ça.
Et donc, on leur doit en retour.
On leur doit en retour de pouvoir les accueillir quand ils le demandent.
Ouais.
Et ce qu'il y a d'intéressant, je crois aussi dans l'histoire des frontières, et que nous, on défend beaucoup, et que tous les gens qui spécialisent des migrations défendent, c'est qu'ils disent plus on ferme les frontières, et plus ça bloque les gens. Si on ouvre les frontières, les gens, ils passent. C'est-à-dire, ils vont venir, ils vont rester 3 ans, ils vont repartir dans leur pays ou dans un autre pays. Et là, on est en train de refermer toutes les frontières qui étaient ouvertes par l'espace Schengen. Là, elle se referme. Il y a des murs, il y a des points de frontières qu'on rajoute, comme à Mont-Genève, au col de l'Échelle. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur notre façon de voir les frontières dans l'Europe, l'Union européenne. Et ça, il faut le revoir, je pense.
Alors, ce film documentaire Lettres de Marseille au cher pays de mon enfance s'interroge aussi sur deux autres sujets, c'est-à-dire la nationalité française, puisque certaines personnes de ces portraits obtiennent la nationalité française. Oui. Aujourd'hui, la nationalité française a quelle valeur dans la société ?
Ah ben, pour ceux qui la demandent, c'est très très important. Hein. Pour eux, c'est l'aboutissement de souvent de longues années d'errance, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir un accueil qui leur donne un statut. Donc quand ils obtiennent la nationalité française, ils sont extrêmement contents. Après, ils peuvent, et c'est posé dans le film un petit peu, je pense certains se rendent compte aussi que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on a la nationalité française qu'on va être accueilli à bras ouverts au niveau professionnel.
Et ça lance aussi un autre débat, c'est est-ce qu'il faut lancer une assimilation, c'est-à-dire assimiler toutes les valeurs d'une société, et notamment de la société française, pour pouvoir mieux accueilli dans une population ?
Je pense qu'ils s'assimilent très bien, beaucoup mieux que certains Français.
Mais est-ce que c'est souhaitable, justement, cette assimilation ?
Il faut qu'ils gardent aussi leur pays d'origine, hein, certainement. Mais je crois qu'ils ont un désir profond d'être complètement, même les jeunes, hein, on le voit, d'être complètement dans la façon de vivre en France.
Autre question aussi, c'est comment mieux vivre ensemble ? Comment ?
En se connaissant. Hein. Je pense que là, par exemple... On vit des expériences d'accueil où il y a des personnes qui viennent pour accueillir les migrants qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, du processus migratoire, etc. Et petit à petit, en les écoutant et en les accueillant, ils comprennent un certain nombre de choses. Donc, il faut que les personnes viennent, jouent le jeu. De venir les voir et de discuter avec eux.
Il faut qu'elles viennent. Et pour toutes celles, justement, on revient à ce fameux mur. Comment on fait pour le percer si on ne peut pas, déjà, si on ne peut pas sensibiliser ?
C'est compliqué. Si, c'est vrai qu'on lance des appels. Nous, régulièrement, ce sont beaucoup les associations humanitaires, hein, beaucoup plus que les associations politiques ou les partis politiques qui font certaines choses, mais pas autant que les associations humanitaires. Donc ici, on travaille beaucoup avec le réseau hospitalisé, le réseau Welcome, la CIMAD... catholiques, c'est des gens de ces réseaux-là qui viennent et qui viennent aider. Quoi. Plus des personnes qui arrivent comme ça, qui tapent à la porte et qui viennent aider.
Selon vous, est-ce qu'on est toujours dans liberté, égalité, fraternité ou est-ce que c'est quelque chose que l'on a perdu mais qu'on retrouvera ?
Je pense qu'on ne l'a pas perdu, j'espère. Mais je pense qu'il faut faire un effort supplémentaire pour que ça soit vraiment dans notre vie de tous les jours.
Ça sera demain soir, demain jeudi, à 20h30 au cinéma Le Royal à Gap. Alors, c'est pas forcément à côté de chez vous, vous qui nous écoutez ce soir auditeur, mais ça peut valoir le détour pour alors suivre ce film, mais aussi pour un débat qui sera organisé derrière. Donc, ça veut dire que chacun pourra discuter et apporter ses arguments. Mmh. Est-ce qu'on peut insister sur le fait que sont les bienvenus, surtout ceux qui sont pas d'accord?
Bien sûr, tout à fait. Mmh. C'est important que les gens viennent poser leurs questions s'ils sont inquiets. Et si c'est fait pour ça, la Fabrique à idées. Mmh. Et qui trouvent en face d'eux des gens qui peuvent leur répondre d'une façon claire et précise.
Merci. Pardon.
Et simplement une information, le réalisateur Alain Barlatier qui sera présent.
Il sera là pour présenter son film et c'est une avant-première.
Merci d'avoir été à nos côtés et d'avoir partagé cette discussion avec nous, Cécile Leroux. Je rappelle que vous êtes membre de la Fabrique à idées dans les Hautes-Alpes. Dans un instant, la suite sur Alpe 1, ce sera 19h et ce sera le récap de l'info. À tout de suite.